fois pour toutes sur la croix est toujours actuelle. Ainsi, tu crois que Jésus a donné sa vie pour toi, tu seras sauvé. Avec tout ce que cela signifie, avec tout ce que cela représente, sauvé du péché, sauvé de la mort éternelle, sauvé de l'enfer, sauvé de la condamnation, sauvé du désespoir aussi que l'on peut connaître ici-bas, parce que, qui que vous soyez, Jésus vous aime. Voilà. Nous aimons l'Évangile. Amen. Et je suppose que si vous êtes là cet après-midi, c'est parce que vous aimez l'Évangile. Il y a de la joie à entendre l'Évangile. Il y a aussi de la joie à le prêcher. Parce que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de celui qui croit. Et nous avons prié et nous voulons croire que cet après-midi, eh bien, la puissance de Dieu va se manifester pour qu'un homme, une femme, un jeune, moins jeune, un enfant, un vieillard, puisse rencontrer Christ comme son sauveur. C'est une rencontre décisive qui bouleverse, qui change le cours de notre vie. Et nous prions pour que cette rencontre, vous puissiez la faire cet après-midi. Amen. Voilà, on va lire un texte de la Bible, parce que la Bible n'est pas un livre ordinaire. C'est le livre par excellence. C'est la parole de Dieu. Ça veut dire que les hommes qui ont rédigé ce texte l'ont fait sous l'inspiration divine. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 13, nous assistons là à un événement très particulier, puisqu'il s'agit du baptême de Jésus. Alors, parfois nous avons peut-être vu de ces gravures, de ces peintres, où l'on voit Jean-Baptiste, le prophète, qui a mis mollet, et Jésus avec, sont dans le fleuve du Jourdain, et lequel Jean-Baptiste arrose avec une coquille de Saint-Jacques la personne de Jésus. Mais ça, c'est faux, mes amis. Jésus n'a pas été arrosé, il a été immergé. Amen. D'ailleurs, la coquille de Saint-Jacques dans le fleuve du Jourdain, je ne sais pas comment il aurait pu la trouver, n'est-ce pas? Mais c'est une autre affaire. Enfin, nous lisons le texte. Il dit ceci: « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Amen. Voilà, nous affirmons avec vérité, selon les enseignements de la Bible, que Dieu est unique, il n'y a qu'un seul Dieu. Et nous affirmons aussi, parce que la Bible l'enseigne, qu'il y a trois personnes divines. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et pourtant, les trois ne forment qu'un seul. Alors ça nous dépasse. C'est normal que ça nous dépasse, puisqu'il s'agit là de Dieu et qu'il est bien au-delà de nos petites capacités humaines. Et ce que nous ne comprenons pas avec nos neurones, eh bien, il faut le saisir et le recevoir tout simplement par la foi. Et dans ce passage que nous venons de lire ensemble, vous l'avez peut-être remarqué, les trois personnes de la divinité sont présentes. Dieu le Père. La voix du Tout-Puissant s'est fait entendre, disant « Celui-ci, parlant de Jésus, est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Dieu le Fils, voilà, ce Jésus de Nazareth, n'est-ce pas, qui est là, en chair et en os. Dieu fait homme, Emmanuel, Dieu parmi nous. Et puis Dieu, le Saint-Esprit, qui, sous la forme d'une colombe, descend sur la personne du Christ pour lui communiquer la puissance, afin qu'il exerce son ministère. Et cet après-midi, Eh bien, je voudrais plus particulièrement vous parler du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Il est envoyé par le Père et le Fils, conjointement, pour accomplir une mission en notre faveur. Et si vous voulez, nous allons essayer de passer en revue, non pas la totalité des fonctions du Saint-Esprit, mais au moins deux ou trois d'entre elles. Mission en notre faveur. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 7 et au verset 11, le Seigneur Jésus dira, le Saint-Esprit qu'il appelle le Consolateur, déjà c'est tout un programme, voyez ce titre qu'il lui donne, quand il viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Et Jésus ajoute de péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je m'en vais au Père, et de jugement parce que le diable est déjà jugé. Voilà. Donc le Saint-Esprit, voyez, il convaincra le monde. Qui c'est le monde? C'est vous, c'est moi. C'est tous ceux qui composent l'humanité, la race humaine. Il convaincra le monde de péché. Voilà. Quand nous écoutons la prédication de l'Évangile, comme vous cet après-midi, chers amis, ou quand nous lisons aussi la Bible, qui est la parole de Dieu, je le disais tout à l'heure, le Saint-Esprit vient nous persuader de quoi? Que nous sommes des pécheurs. Voilà. Que nous sommes des pécheurs. C'est comme si un voile se déchirait, comme si tout à coup, dans les ténèbres de notre esprit, de notre cœur, eh bien, une grande lumière brillait et Dieu attirait nos regards, ce que nous n'avions pas vu, ce que nous n'avions pas voulu voir, tous les méchantes actions que nous avions commises, toutes les mauvaises pensées que nous avions prononcées et toutes les paroles peut-être misérables que nous avons fait sortir de notre bouche et même les sentiments de notre cœur. Et le Saint-Esprit, avec puissance, avec autorité, vient nous persuader de notre état de culpabilité en regard de la loi divine. Mais le Saint-Esprit n'en reste pas là. Il vient aussi nous révéler que par la foi en Jésus, nous pécheurs, alléluia, nous pouvons être sauvés. Nous pouvons sortir de nos conditions, de notre condition misérable, et au travers du sacrifice que Christ a accompli sur la croix en notre faveur, nous pouvons échapper au pouvoir de Satan et être libérés, n'est-ce pas, de son emprise sur nos vies. C'est ce qui s'est passé il y a bien longtemps à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, dans le livre des Actes des Apôtres, qui se trouve dans la Bible, au chapitre 2. Il est dit que l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, c'est important, rempli du Saint-Esprit, a prêché l'Évangile. Voilà. Et il y avait là un auditoire considérable. Et lorsque l'apôtre a eu terminé sa prédication, l'Écriture nous dit que ses auditeurs eurent le cœur vivement touché. Et ces gens-là ont été bouleversés, comme si une épée les avait transpercés de part en part. Et ils se sont écriés, « Mon frère, que devons-nous faire ?» Ça, c'est le travail qu'accomplit l'Esprit de Dieu dans un cœur humain. Un cœur vivement touché. Ah, nous avons vu ça par la grâce de Dieu à plusieurs reprises, dans ce lieu, n'est-ce pas? Les hommes, les femmes qui entraient dans ce lieu et qui se sont sentis comme dévoilés par la révélation de leur état misérable. Je me souviens de ce frère qui me disait, c'était sur la côte basque, là-bas, à Biarritz, Bayonne, et c'était un ancien marin de la marine nationale, voyez, un gars qui avait bourlingué, et Dieu sait que la vie des marins, elle n'est pas toujours brillante. Il me dit, la première fois que je suis venu, eh bien, le prédicateur, quand il a prêché, j'avais l'impression qu'il m'avait suivi là-bas, en mer de Chine, et qu'il avait été à mes côtés tout au long de ma navigation, à tel point que quand il est sorti de la réunion, il a attrapé sa femme, en disant, dis donc, tu n'as jamais rencontré cet homme, tu lui as jamais parlé de nos problèmes de couple. Elle lui a dit, écoute, je suis comme toi, je ne l'ai jamais vu, ni d'Adam ni Ève, mais c'était le Saint-Esprit qui venait de révéler qu'il était un pécheur. Plaise à Dieu que cet après-midi, vous compreniez que vous êtes des pécheurs. Je veux prier dans mon cœur que Saint-Esprit vous montre que vous avez offensé Dieu, mais que cependant Dieu vous aime, et qu'il y a pour vous une solution, un pardon qui vous est offert, car je parlais de l'apôtre Pierre, de ses auditeurs, qui s'écriaient « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Et Pierre a conclu sa prédication en disant « Repentez-vous et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. » Et gloire à Dieu, parce que ce jour-là, 3000, dites, excusez du peu, se sont repentis et ont reçu, effectivement, comme vous-même vous pouvez le recevoir dès ce soir, le pardon de leurs péchés. Le pardon de leurs péchés. Je disais que le Saint-Esprit vient nous persuader. Oui, certes. Mais savez-vous qu'on peut aussi résister à l'action du Saint-Esprit? Et on peut refuser de se laisser convaincre. Dans la parole de Dieu, tenez. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 7, il est question d'un prédicateur tout aussi remarquable, tout aussi éminent que c'était, que ne l'était l'apôtre Pierre, s'appelait Étienne. Et lui aussi a prêché sous l'inspiration divine, par la puissance du Saint-Esprit, une prédication remarquable, remarquable à tous égards. Et à la fin de sa prédication, il interpelle ses auditeurs en leur disant ceci, « Hommes au cou raide, à la nuque raide, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. » Et si les auditeurs de Pierre, par la grâce de Dieu, se sont laissés convaincre et se sont laissés persuader par le Saint-Esprit, les auditeurs d'Étienne ont fermé leur cœur et ils ont refusé de se laisser toucher par la grâce du Seigneur. N'imitez pas ce triste exemple. Mais si cet après-midi, le Saint-Esprit a accès à votre cœur et vous montre que vous avez offensé Dieu, demandez-lui pardon et il vous fera grâce. Demandez-lui pardon. Il n'est pas de péché que Dieu ne puisse pardonner. Alléluia! Tout a été accompli à la croix du calvaire pour que le plus misérable, le plus infâme des pécheurs, si tant est que certains soient plus misérables que d'autres, puissent recevoir la mesure de grâce et de miséricorde dont il a besoin. Vous savez, le pardon de Dieu, c'est complet. Alléluia! Ce n'est pas une lessive à bon marché. Non, c'est une purification de fond en comble de notre être moral, de notre être spirituel. Au fond de nous, nous savons bien que parfois, nous traînons, n'est-ce pas, eh bien, le souvenir douloureux de certains faits et gestes que nous avons commis dans le passé. Et parfois, eh bien, ça revient à la surface et notre conscience vient nous tourmenter. N'en restez pas là. Ne restez pas dans cet état de culpabilité. Mais venez vers le Seigneur. Invoquez-le cet après-midi. Dites-lui tout simplement, dans le fond de votre cœur, Seigneur, pardonne-moi, j'ai besoin que tu me fasses miséricorde, il le fera. Vous n'avez pas besoin d'un confesseur, il n'y a pas de confesseur ici. Tout à l'heure, on ne va pas vous prendre dans un coin pour que vous nous racontiez tout ce qui s'est passé dans votre existence. Non, l'affaire doit se régler entre Dieu et vous, entre vous et Dieu. C'est lui qui a été offensé et c'est vous qui avez été l'offenseur. Et là, tout à l'heure, dans le moment de prière que nous aurons, invoquez le Seigneur. Même si vous n'avez pas l'habitude de la prière, dites-lui tout simplement, Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Je cite souvent, excusez-moi d'y revenir, le témoignage de cet ami, c'est pas, qui est missionnaire aujourd'hui, et qui, après avoir entendu l'Évangile, a été marqué par cette phrase qu'a prononcée l'homme de Dieu. Dites, Seigneur Jésus, pardonne tous mes péchés. C'est ce qu'il a fait, non pas en répétant ça comme un perroquet, en y mettant son cœur. Et à partir du moment où il s'est ainsi humilié devant Dieu, Dieu a fait grâce et sa vie a changé. Retourné qu'il a été, le garçon, comme une crêpe, transformé de fond en comble parce qu'il avait confessé ses fautes au Seigneur. Faites de même et Dieu vous bénira. Alléluia. Faites de même et Dieu vous fera grâce. Et puis, quand nous faisons ainsi, voyez, quand nous nous laissons persuadés par le Saint-Esprit que nous sommes des pécheurs, quand nous venons suite à cela en quelque sorte nous jeter aux pieds du Sauveur, aux pieds de Jésus pour qu'il nous fasse grâce, alors le Saint-Esprit vient réaliser en nous une autre œuvre formidable. Il nous fait naître de nouveau. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Un certain soir, il y a bien longtemps, nous dit l'Écriture, un éminent professeur de religion qui avait pour nom Nicodème est venu rencontrer Jésus. Et l'entretien s'est prolongé. pendant certainement une bonne partie de la nuit. Et à un moment, eh bien, la parole du Seigneur a intrigué cet homme. Jésus venait de lui dire, Nicodème, Nicodème, si tu veux aller au ciel, si tu veux être sauvé, si tu veux que le Dieu Tout-Puissant et Saint t'accueille un jour en sa présence, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Et Jésus va insister en disant, celui qui ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que pour aller au ciel, répétons-le comme Christ l'a dit, il faut naître de nouveau. Vous savez, un jour, nous sommes nés physiquement. Alors, nous sommes sortis du sein maternel et nous sommes apparus dans ce monde. Hein? Voilà, nous avons fait notre apparition, nés physiquement. Il s'agit ici de naître spirituellement. Et c'est le Saint-Esprit qui opère en nous cette naissance spirituelle. Cette naissance en nous communiquant une vie nouvelle qui vient de Dieu. La vie naturelle, la vie organique, la vie biologique, ce sont nos parents qui nous l'ont transmise. Mais il s'agit là d'une vie spirituelle, d'une vie intérieure, d'une vie divine, d'une vie qui vient du ciel, qui procède de Dieu lui-même. Et c'est par l'Esprit de Dieu qu'il nous la communique. Et quand le Saint-Esprit vient nous faire naître de nouveau, il nous transforme radicalement. Alléluia! Il y a ici, dans ce lieu, bien des hommes et des femmes qui peuvent vous dire en toute sincérité, ma vie a changé du tout au tout. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alléluia! Si vous les aviez connus autrefois, n'est-ce pas? Si vous les aviez peut-être pris en photo il y a 30 ans, eh bien vous seriez étonné du changement qui s'est produit, de la transformation que Dieu a opérée dans leur mentalité, dans leur état d'esprit, dans leurs propos, dans leur comportement. Tout a changé, voyez. Ça n'est pas en adhérant à une philosophie, ça n'est pas en acceptant eh bien, de recevoir les rites ou les sacrements d'une religion, c'est en laissant l'Esprit de Dieu faire son œuvre en nous que nous pouvons connaître ce changement radical. Il nous libère, le Saint-Esprit, du pouvoir, de la puissance, de l'esclavage du péché. Parce que, mes amis, non seulement le péché eh bien, fait de nous des coupables, mais le péché fait aussi de nous des esclaves. Jésus a dit, celui qui se livre au péché, il devient l'esclave du péché, mais il ajoute, béni soit Dieu, si le Fils de Dieu, c'est lui le Fils de Dieu, vous affranchit, vous libère, vous deviendrez réellement libre. J'aime bien cette précision, cet adverbe réellement. Vous savez, dans le monde, on nous promet la liberté. Hein? D'ailleurs, ça fait partie de la formule républicaine, liberté, égalité, fraternité. Hein? Liberté, liberté, disait quelqu'un, que de crimes on commet en ton nom. Et c'est vrai que des fois, on s'affirme libre, mais si on regarde de près, on n'est pas si près, si libre que ça, n'est-ce pas? Intérieurement, souvent esclave de soi-même. Comment être libéré? Comment être transformé? Comment être changé? Comment ma vie peut s'engager dans une nouvelle direction, une nouvelle orientation, où je serai libéré de ce qui me colle à la peau par la puissance et le pouvoir du Saint-Esprit? Peut-être avez-vous fait des efforts pour vous changer. Peut-être vous avez dit, oui, d'accord, dans tel et tel domaine, je me suis mal comporté. Eh bien, je prends la décision. Eh bien, je prends la résolution de changer d'attitude, de changer de comportement. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Et puis, le résultat n'a pas été à la hauteur de votre espérance. Parce que vous avez essayé, avec beaucoup de bonne volonté, de vous changer vous-même. Et vous n'y êtes pas parvenu. Parce que le péché, c'est une puissance qui nous domine et nous a servi. Mais ce que vous ne pouvez pas faire, Dieu peut le faire pour vous. Alléluia. Par son esprit, par sa puissance. Tu ne peux pas te changer toi-même. Ces mauvaises habitudes, au fil du temps, se sont enracinées en toi, de telle sorte que tu es obligé de t'avouer à toi-même, c'est plus fort que moi. Je voudrais bien m'arrêter, mais je n'y arrive pas. Tu n'es pas le seul, tu n'es pas le premier. Un homme de la Bible, qui est devenu plus tard un apôtre du Seigneur, nous dira ceci, je trouve en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Voilà quel était son dilemme. Il a fait lui aussi des efforts. Il a fait des tentatives répétées et multipliées pour essayer de s'extirper, de s'arracher à ce mal qu'il sentait en lui. Mais il dira, non, mais misérable que je suis, qui me délivrera jusqu'au jour, gloire à Dieu, où l'Évangile est parvenu dans la vie de cet homme. Alors il s'écriera, eh bien, la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. Voyez, cet homme qui se sentait esclave de lui-même, n'est-ce pas ? Esclave de lui-même. Eh bien, il pourra dire, voilà, par son esprit, Jésus-Christ a changé le cours de ma vie, de mon destin. Vous pouvez vivre une expérience semblable. Es-tu esclave de l'alcool ? Es-tu esclave du tabac ? Es-tu esclave de la drogue ? De la consommation effrénée de médicaments ? Es-tu esclave du jeu ? Es-tu esclave de passions infâmes que peut-être je n'oserais pas mentionner ici ? Es-tu esclave de mauvaises habitudes, n'est-ce pas, qui se sont, je le disais il y a un instant, enracinées en toi? Eh bien, viens au Seigneur et dis-lui, Seigneur, ce que mes efforts n'ont pas pu produire, produis-le en moi par ton esprit. Et il le fera, alléluia, parce qu'il en a le pouvoir. Le Saint-Esprit n'est pas une influence mystérieuse, vous savez, hein, il y a des gens qui parlent du, comment ils disent ça, hein, le grand architecte de l'univers, mais ça c'est de la blague, c'est pas un architecte, hein, non, c'est un Dieu tout-puissant, voyez, c'est pas un esprit, une espèce de nuage, une petite vapeur là qui se balade dans le cosmos. Notre Dieu, c'est un Dieu vivant, alléluia, un Dieu qui agit, un Dieu qui intervient, un Dieu qui a des émotions, un Dieu qui a des sentiments, un Dieu qui nous aime et qui veut nous arracher à notre propre misère intérieure par son esprit. C'est possible, alléluia. Ce que peut-être la psychologie, avec le respect qu'on lui doit, n'a pas pu faire dans ta vie, Dieu peut le faire par son esprit. Ce que l'éducation, bonne éducation peut-être que tu as reçue dans ton enfance, ton adolescence, n'a pas pu produire, Dieu le peut par ton esprit. Ce que, eh bien, l'enseignement que tu as reçu à la faculté, à l'université, n'a pas pu réaliser, Dieu peut le faire par son esprit, faire de toi un homme nouveau, faire de toi une femme nouvelle. Il te faut naître de nouveau, et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Gloire à Dieu, alléluia, il vient pour nous changer, vous voyez. Être chrétien, ce n'est pas quelque chose qui vient par-dessus notre ancienne vie, hein. J'allais dire, ce n'est pas un emplâtre sur une jambe de bois, non, être chrétien, c'est un renouvellement de vie, c'est changer de vie, c'est te transformer en profondeur, gloire à Dieu, par l'Esprit du Seigneur. Et puis, le Saint-Esprit, il vient, quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Maître de notre vie, il vient en nous, voyez. Et il y a des gens qui pensent que Dieu habite dans des endroits spéciaux, des églises, des cathédrales, des temples, des synagogues, des mosquées. Il y en a même qui pensent que Dieu habite dans les salles évangéliques, figurez-vous. Hein. Mais ce n'est pas vrai tout ça. Où est-ce que Dieu veut habiter? Là, dans notre vie. Jésus a dit, le Saint-Esprit, quand il viendra, il va demeurer en vous. Vous le connaissez un petit peu, dira-t-il à ses disciples, parce qu'il est avec vous. Mais là, ça va être un pas supplémentaire, un degré supérieur. Il va venir en vous, à tel point que l'Écriture dit que lorsque Jésus prend place dans notre vie, lorsque nous lui remettons notre pauvre existence de pécheur, lorsque nous l'acceptons comme sauveur, comme Seigneur, comme maître de notre vie, notre corps devient le temple du Saint-Esprit. C'est pas formidable ça? La demeure de Dieu, l'habitation du Seigneur. L'Écriture dit que Dieu n'habite pas ce qui est fait de main d'homme. Non. Il n'habite pas entre les quatre murs d'un local particulier, là où il veut habiter. C'est dans votre vie, c'est dans votre corps, c'est dans votre cœur, c'est dans votre être tout entier. Et ça, ça change tout, voyez. Présent en nous, il agit en notre faveur. Il nous console dans nos peines. Alléluia. Jésus l'appellera le consolateur. Et je vous assure que c'est vrai. Amen. Eh bien, mes amis ici pourraient confirmer cette vérité, que dans des moments particulièrement difficiles, douloureux, stressants, angoissants, nous sommes jetés aux pieds du Seigneur. Nous l'avons prié, non pas petite prière de 4 sous, mais nous avons dit, Seigneur, vois ma détresse, ma crainte, mon angoisse, mon tourment. Et la paix de Dieu est venue en nous. Ce n'est pas vrai? Mes frères, mes sœurs, vous avez vécu ça, hein? Nous avons vécu cela. À tel point que des fois, nous nous sommes même dit, mais tu devrais te faire du souci. Et tu t'en fais pas. Tu devrais être inquiet parce que la situation est difficile. Tu es confronté à des événements pas évidents. Et voici qu'il y a une sérénité, un calme extraordinaire. D'où ça vient? C'est l'Esprit de Dieu, ça. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu. Notre consolateur, il nous rassure dans nos craintes. Oh, ce n'est pas qu'on va entendre une voix, non, d'une manière audible. Mais là, dans notre cœur, il y a l'influence bénie du Saint-Esprit qui nous rassure, qui nous dit à sa façon, « N'aie pas peur, je suis là. » Alléluia, je suis là. Hein? Et tant que Dieu est là, eh bien, tout est bien. Amen. Gloire à Dieu. Je me souviens du témoignage de ce pasteur, de ce frère, peut-être certains l'ont connu, je me permets de mentionner son nom, le pasteur Quintin, qui, tout pasteur qu'il était, a traversé une période particulièrement douloureuse de sa vie. Vous voyez, il a sombré dans le noir, dans la déprime, et rien, semble-t-il. Pourtant, c'était un homme de Dieu, ne semblait pouvoir l'en faire ressortir, ni les conseils de sa famille, etc., etc. Et puis plutôt une nuit, Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé. Et il a entendu cette interpellation divine. Dieu disait, je suis là maintenant. C'est tout. Je suis là maintenant. Et c'était tellement bouleversant, il a réveillé sa femme. Dieu m'a parlé. Je suis là maintenant. Et après, à partir de là, il a remonté la pente, mes amis. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Alléluia. Et nous pouvons tous en bénéficier. Oui, c'est pas être mystique, c'est pas rêver les yeux grands ouverts. C'est la puissance de Dieu. C'est la grâce du Seigneur. Il nous console. Il vient aussi, le Saint-Esprit, nous enseigner les vérités de la parole de Dieu. Je me souviens de cette chrétienne qui me disait ceci, elle avait fait ce constat. Elle me disait, avant de me convertir réellement, je lisais la Bible, j'y comprenais rien. Pourtant, elle n'était pas sotte, hein. J'y comprenais rien. Et maintenant que Jésus est devenu mon sauveur, c'est bizarre. Les mêmes textes qui lui semblaient si confus, si hermétiques, eh bien tout à coup prenaient un relief nouveau et elle comprenait le sens des Écritures. Vous voyez, le Saint-Esprit, c'est notre pédagogue, notre enseignant. Alléluia. Hein? Moi, j'ai eu une bonne institutrice. Lorsque j'étais enfant, je m'absentais souvent de l'école pour des raisons de santé. Et cette brave femme qui s'appelait Madame Pince, vous voyez, j'ai retenu son nom, elle venait à la maison, figurez-vous, et elle s'occupait de moi. Et elle m'apprenait, n'est-ce pas, que B plus A, c'est ça, hein, ça faisait bar, etc. Elle m'apprenait que 1 plus 1, ça faisait 2. C'est toujours la même chose, je crois, vous voyez. Et c'était une pédagogue excellente, avec beaucoup de tendresse, d'affection. Elle s'occupait de ce petit garçon. Ce n'était pas son job, elle n'était pas payée pour ça. Elle aurait pu dire, oh, moi je fais mes heures là-bas en classe et puis basta. Mais vous voyez, elle s'intéressait à ce garçon. C'est précieux d'avoir affaire à des gens comme ça. Eh bien, le Saint-Esprit, c'est mieux que Madame Pince. Le Saint-Esprit nous enseigne la parole de Dieu. Il nous enseigne la parole de Dieu. Il nous permet aussi d'être en relation, le Saint-Esprit, avec Dieu. Dans la prière, en toute liberté, le contact se fait. Le contact. Ce n'est pas tout de prier. Ce qui est important, c'est de savoir que le courant passe. Hein? Imaginez que vous téléphonez à quelqu'un, le contact ne se fait pas. vous n'allez pas continuer à parler dans le combiné pendant demi-heure en disant ça fait rien, il ne m'écoute pas de l'autre côté, mais ça fait rien. Non, non, non. On recommence, on recompose le numéro, surtout si c'est comme moi qui ai un nouveau portable, hein, qui ne comprend pas grand-chose. Hein. Alors on est obligé de recommencer jusqu'à ce que, eh bien, vous voyez, Dieu veut établir la communication. Un ami qui est maintenant décédé auprès du Seigneur me disait ceci, il était d'une famille musulmane en Afrique, et dans son village là-bas, il voyait son père faire sa prière de bon musulman. Alors un jour, ce petit bonhomme est venu vers son père, il lui dit, « Papa, tu as prié Dieu. Est-ce que tu crois qu'il t'a entendu ?» Vous savez, les gosses, des fois, ils ont de ces questions. Hein. Il n'y a que pour qui osent les poser. Vous avez remarqué ça ? Est-ce que tu crois qu'il t'a entendu ? Et ce père, avec beaucoup de franchise, a dit, « Mon fils, j'ai prié parce que ainsi m'a-t-on appris. Et quant à savoir si le Dieu que j'ai prié m'a entendu, ça, c'est une autre histoire, je ne sais pas. » Ce garçon a grandi. Il est venu en France. Il était étudiant à Toulouse. Et là, un jour, eh bien, l'un de ses condisciples l'a amené à l'écoute de la parole de Dieu. Et il a réalisé qu'il y avait un Dieu vivant. Un Dieu vivant qu'on pouvait le rencontrer, avec qui on pouvait entrer en contact, non pas par des salam alek, mais par une prière authentique et fervente. Au travers du Saint-Esprit. C'est formidable d'avoir contact avec Dieu. Il n'est plus un Dieu lointain. Il n'est plus un Dieu inaccessible. On peut s'adresser à lui. Il est notre Père. Vous savez, la prière par le Saint-Esprit, c'est mieux que Facebook. Alléluia. Hein? Il y a des gens, ils ont des amis en pagaille sur Facebook. Mais l'Écriture dit, celui qui a beaucoup d'amis, il les a pour son malheur. Par contre, il est écrit dans le livre des Proverbes, il est un ami plus attaché qu'un frère. Cet ami-là, c'est Dieu. Et par le moyen de son esprit, il veut entrer en contact avec nous. Quand tu le pries de tout ton cœur, il t'écoute et il te connaît. Et puis, oui, il en a été question ce matin, dans la prédication, le Saint-Esprit vient nous communiquer cette certitude. Maintenant, tu es un enfant de Dieu. Quand tu as accepté Jésus, quand tu as demandé pardon de tes péchés, quand tu as cru, mais cru avec ton cœur, que sur la croix il est mort, pour que par ce sacrifice tes péchés soient tous effacés, alors le Saint-Esprit vient te dire à sa manière, ça y est, maintenant mon gars, maintenant ma fille, tu fais partie de la famille. De la famille de Dieu. Tu es devenu un enfant de Dieu. Il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et qu'à ce titre, un jour, nous le rejoindrons dans le ciel. Alléluia! Voilà la mission du Saint-Esprit, vous voyez? C'est formidable. Alors, j'en reviens et je terminerai par là à ce que l'apôtre Pierre disait dans sa prédication. Quand les gens lui ont dit, ah, ils ont le cœur vivement touché, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire, apôtre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et il ajoute, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà. Et c'est comme ça que 3000 se sont engagés. Dites donc, quel beau service de baptême. Hein? Voilà. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Cet après-midi, Saint-Esprit peut venir faire son œuvre en vous. J'allais dire, avec tout le respect que je lui dois, sans tambour ni trompette, voyez, c'est pas forcément quelque chose qui se démontre dans un premier temps. Non, c'est intérieur, mais c'est profond, c'est sérieux. C'est pas une effervescence artificielle. C'est pas au travers de gestes, de manipulations, de gesticulations. Non, c'est une action intérieure. Acceptez donc, amis, de vous reconnaître pécheur devant Dieu. Là, n'est-ce pas simple, n'est-ce pas facile au fond de lui dire tout simplement, Seigneur, pardon, je regrette le mal que j'ai fait, et je te l'avoue à toi seul. Acceptez de croire, ami, que Jésus a dû mourir sur la croix pour effacer vos péchés. Recevez-le comme votre sauveur et votre maître. Et si vous avez cette démarche, alors le Saint-Esprit viendra et il réalisera en vous cette œuvre merveilleuse. Amen. Il vous fera naître de nouveau, il prendra place dans votre vie et tout changera. Gloire à Dieu. Attention, je ne dis pas que désormais vous allez planer sur les ailes du vent au-dessus des difficultés humaines et que vous ne connaîtrez plus aucun problème. Ce n'est pas vrai. Si je disais cela, je serais un boni menteur. Ce qui est vrai, c'est que nous sommes des êtres humains, nous avons affronté les durs combats de l'existence. Et ce qui est vrai aussi, c'est que ça change tout quand le Saint-Esprit demeure en nous. Voulez-vous que nous prions quelques instants, s'il vous plaît ?